croyez donc appartenir à une aristocratie d'électeurs?
Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie d'électeurs.
Que pensez-vous du livre de poche?
Beaucoup de mal.
Pourquoi?
Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, on leur a, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens, avant, les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant.
On est avec Marie Boivant, présidente du cabinet du livre d'artiste, et Vanessa Morisset, commissaire de l'exposition. Bonjour à toutes les deux. Et on me fait signe que ça n'est pas Marie Boivant.
Non, pas du tout. En fait, on est trois commissaires sur l'exposition. Vanessa Morisset, effectivement. Marie Boivant, effectivement. Et moi-même, Aurélie Nourry, qui suis coordinatrice du cabinet du livre d'artiste. Mais c'est pas grave, c'est compliqué aussi.
Hop là. Et bah parfait, au moins les auditeurs sont informés. Avant de nous intéresser à vos activités, je voudrais m'arrêter avec vous sur ce que l'on vient d'entendre. Il s'agit d'un étudiant en médecine, une archive de 1964, dans laquelle il exprime son mépris pour le roman de poche, et surtout ses lecteurs. Qu'est-ce que ça dit du rapport entre littérature et pouvoir?
Vanessa, tu veux répondre ou...
Non, comment ça?
Non, c'est important parce qu'historiquement, le livre de poche a vraiment été inventé pour la démocratisation de la littérature. C'est vraiment le roman de gare. Ça coûte pas cher à fabriquer. En général, c'est des romans de pas de mauvaise qualité à l'intérieur, mais techniquement, ça se décolle. C'est des livres qui tiennent pas longtemps. Donc, l'objectif du livre de poche, c'est justement répandre la littérature et les romans auprès de tout le monde. Là, ce que dit ce monsieur, c'est drôle. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on peut être très ironique dans ce qu'il dit. Au contraire, il faut se réjouir de pouvoir mettre à la portée de tous et les grands textes. Et je pense qu'il dit qu'on prend la littérature de haut. C'est plutôt lui qui prend les gens de haut. Donc non, au contraire, réjouissons-nous que le livre de poche permette la diffusion de la littérature. Et c'est aussi ce qu'on fait, nous, avec les livres d'artistes, qui est une façon de diffuser l'art contemporain par le biais des livres, donc une façon plus décomplexée.
Moi, je comprends rien à ce qu'il dit, en fait. Il ne parle pas de littérature, il parle de classe sociale, mais il ne parle pas de rapport à la littérature, il ne parle pas d'intérêt pour la lecture. Donc, je ne comprends pas ce qu'il dit, en fait. Je comprends trop bien ce qu'il dit, mais ça ne parle pas de littérature.
Mais c'est drôle, parce que ça donne aussi l'ambiance d'une époque.
Et ben, on va continuer à parler de pouvoir de la littérature et de sa réutilisation, justement. Aujourd'hui, donc, a lieu le vernissage de l'exposition Book Blocks à 18h.
Alors, c'était hier, décidément. Hein.
D'accord, ça commence très bien.
Aujourd'hui, c'est une journée d'études autour de la question du Book Block.
Bon, comment se passe cette journée d'études? Qu'est-ce qui nous reste pour cette fin de journée au programme?
Alors, ce qui s'est passé, j'explique. Donc, tout ça se passe au cabinet du livre d'artiste. Donc, pour les étudiants du campus, ça leur parle peut-être. On était avant installés dans le bâtiment Erev en face du café. On a déménagé là. Depuis septembre, on est sur le rez-de-jardin de la BU, c'est-à-dire derrière la BU. On passe derrière la gare Réessai et on arrive dans une cour. Donc, on est à l'arrière du bâtiment. On est à côté du fond ancien. Donc, j'invite tous les étudiants à venir nous voir dans ce nouvel espace. Et donc, on a effectivement monté et ouvert et verni hier l'exposition actuelle qui s'appelle Contre-attaque, Book Block et Bibliothèque Explosive, où on interroge cette notion et de Book Block dont on va parler et aussi de pouvoir symbolique du livre en tant qu'arme ou bouclier en tout cas. Et donc le vernissage était hier soir à 18h et aujourd'hui on a eu une table ronde ce matin donc au cabinet du livre d'artiste, et cet après-midi on continue sur une journée d'études qui se trouve en revanche dans le bâtiment Mussa à l'étage. Donc je vous invite à partir de 14h, c'est-à-dire tout de suite après, à venir nous rejoindre pour des débats autour de ces questions-là. Voilà.
La question qu'on se pose tous maintenant, Vanessa Morisset, c'est qu'est-ce que c'est qu'un book block?
Alors un book block, c'est un objet qui a été, ça fait partie des objets de manif, et c'est un objet qui a été inventé à la fin 2010 par des étudiants de l'université de Rome à La Sapienza. C'était en réaction contre une loi de l'éducation du gouvernement Berlusconi, qui est de retour aujourd'hui, 12 ans après. Et donc pour c'était des lois, c'était une loi sur l'éducation qui annulait toutes les bourses, doublait les droits d'inscription à l'université. Donc c'était vraiment anti-universitaire. Et ils ont créé donc, des objets qui sont des boucliers. Il y a un tuto qu'on peut trouver sur YouTube pour le fabriquer, parce que c'est assez compliqué. Enfin, faut mettre plusieurs couches pour que ça résiste bien, avec de la mousse, du carton, du plexiglas. Mais surtout, esthétiquement, enfin, c'est très fort, parce que c'est comme des couvertures de livres agrandies. Les boucliers des étudiants et des étudiantes de Rome étaient... des monochromes réalisés avec des bombes de peinture, une couche monochrome d'une couleur très vive, et puis simplement écrit dessus le titre et l'auteur, l'autrice d'un ouvrage. Pas forcément un ouvrage militant, mais il y a Don Quichotte, après il y a aussi, Lénine. Mais c'était pas forcément. Ce qui nous a intéressé aussi dans le phénomène, c'est que c'est pas forcément de la littérature militante. C'est que tout livre qu'on aime peut être brandi comme une revendication, comme une identité presque, parce que c'est utilisé en tête de cortège. Donc les personnes qui les utilisent cherchent plutôt l'anonymat et le nom de l'œuvre et le nom de l'auteur, de l'autrice, en fait, vient à la place du nom de la personne, quoi.
L'idée première, justement, on a parlé de bouclier, c'est une plaque en plexiglas, normalement. Pourquoi mettre une couverture de livre sur une plaque en plexiglas pour se défendre? Quel est l'intérêt? Quel est le rôle symbolique du livre sur cette plaque en plexiglas?
C'est vraiment montrer que le livre est... C'est faire le lien entre le pouvoir symbolique et le pouvoir réel du livre. En fait, c'est faire le lien entre le livre comme protection contre la bêtise d'une manière symbolique et littérale, pour le coup, en attaquant la police italienne et par procuration le gouvernement italien. Et c'est l'idée de dire que le livre, la lecture, c'est pas rien, ça a un effet. Alors après, quel est-il en fait? C'est une question qu'on a vraiment abordée ce matin, qu'on abordera encore cet après-midi. Quel est l'effet, le pouvoir réel du livre contre tout ça? Mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment de faire le lien entre le pouvoir symbolique et le pouvoir littéral.
Venir brandir son savoir, venir l'opposer aux forces de l'ordre, en fait. Et c'est ce qui est super, c'est que c'est à la fois une façon de se protéger et une façon d'avancer dans le cortège aussi.
On a parlé du choix un peu du livre qu'on pourrait mettre sur son book-block. Il y a un livre dont vous parlez beaucoup dans l'article que vous avez écrit dans « Sans niveau ni maître » pour présenter l'exposition. C'est Barthelby d'Herman Melville. Pourquoi ce livre-là, justement, et pas le Manifeste du Parti communiste, par exemple, ou le Das Kapital, je ne sais pas?
En fait, tout est parti de ce livre. En fait, tout le travail qu'on a fait, en fait, est parti de Barthelby. En fait, moi, j'ai fait cours pendant 2 années sur ce petit livre, donc je le connais assez bien. C'est un livre qui a eu qui a une grande postérité. Il est cité même par des personnes qui l'ont pas lu. Et c'est un livre dont la renommée dépasse largement en fait les rayons des bibliothèques. Et en travaillant sur Barthelby, j'ai découvert une œuvre d'un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Gann, qui a fait un workshop ici, qui est présent dans l'exposition, qui était à la table ronde ce matin, qui est là, quelque part sur le campus, là, en ce moment même. Il a fait une œuvre qui s'appelle Book Block en 2018, où il a donc recréé les book blocks romains en suivant le tuto dont on a parlé. Et il y en a 31, et parmi, c'est un peu sa bibliothèque idéale, et parmi tous les titres qu'il a retenus pour ses book blocks, il y a Barthelby. Donc Barthelby, c'est vraiment un livre qui peut être brandi. Voilà.
Peut-être on peut juste raconter un peu l'histoire de Barthelby le scribe, oui. C'est le titre. Ouais. Ça met en scène un copiste en fait qui travaille dans un cabinet, qui copie des documents de toutes sortes et qui du jour au lendemain.
À Wall Street.
Et c'est un tout petit livre, on le lit en quelques heures à peine, et qui du jour au lendemain, à toutes les questions qu'on peut lui poser, décide de répondre cette phrase déconcertante qui est « je ne préférerais pas ».
À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, et en particulier quand on lui demande de travailler.
Voilà. Et donc c'est complètement désarmant parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à ça en fait? Il dit pas non, il dit juste qu'il préférerait pas.
Mais il fait pas.
Voilà.
Il dit pas non, mais il fait pas. Donc c'est une forme de résistance passive.
D'impuissance, c'est aussi la figure de l'impuissance littéraire aussi. C'est devenu très, très symbolique, Barthelby. Et puis on est dans le travail de la copie, donc on parle de pouvoir épécucher, de copier, c'est ne pas choisir. Enfin, on est aussi dans l'absence de choix.
Et j'avais une dernière question pour vous toutes les deux. J'ai entendu tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez fait vos propres book blocks aujourd'hui. Quel livre vous avez mis dessus?
Alors, Vanessa a eu la chance de pouvoir faire son book blog. Moi, je n'ai pas eu le temps de fabriquer la chose. Mais en revanche, on a demandé à tous les participants de la table ronde et de l'exposition, et de la journée d'études de choisir un livre. On a fait une petite bibliothèque de survie collective qui serait le livre qu'ils apprendraient par cœur, comme dans le film Fahrenheit. Moi, j'ai choisi Jean Giono, Que ma joie demeure, qui est sans doute le livre que j'apporterais sur une île déserte, ce qui est pour moi un livre que je ne cesse de lire et de relire avec toujours autant de joie et qui demeure.
Alors moi, pour la bibliothèque collective, donc je me suis vraiment dit quel livre je voudrais sauver si on devait refaire l'humanité ailleurs ou comme une arche de Noé. Et j'ai pris Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et pour le mon book, donc j'ai fabriqué avec Jean-Baptiste un book blog. Et là, pour le book blog, j'ai pris un autre livre. Bah, j'avais l'occasion du coup de prendre d'avoir un second livre, donc j'ai saisi l'occasion. Mais j'ai mis L'excès l'usine de Leslie Kaplan, qui est un livre de poésie sur le quotidien à l'usine, qui est un livre magnifique.
On peut donc aller voir l'exposition de Book Block à l'université, et peut-être même y trouverez-vous quelques inspirations en prévision des futures manifestations étudiantes.